Si vous voulez me permettre, je vais juste présenter en une minute le général Dominique Trinquant. On n'a pas calculé, mais on se connaît depuis très longtemps. Il était ma première référence militaire quand je suis entré dans l'armée. Ça marque, comme le canard qui voit une tête, et c'est la tête qui reste comme la référence. Et j'ai toujours gardé un très, très bon souvenir de ces premières années. Donc, général Trinquant est Saint-Cyrien. Suite d'une carrière de cavalier léger au départ, puis après dans la lourde, j'ose dire émérite, une formation à l'école de guerre, notamment avec l'école de guerre anglaise à Londres, et puis deux opérations majeures, une au Liban dans les débuts 90 et une en ex-Yougoslavie, qui donne quand même, je dirais, de la légitimité s'il y a besoin d'en avoir, une situation assez complexe. Et puis ensuite, nous, on ne s'était plus revus. Puis je t'ai revu quand tu es revenu de tout un accompagnement à l'Union européenne, à l'OTAN et à l'ONU, et surtout à l'ONU, avec un poste à Washington. New York. Et qui fait qu'une bonne connaissance globale de ces institutions qui ont conduit toutes les stabilisations ou les opérations des dernières années. Et puis maintenant, chez Marc et Balzan, avec une compétence opérationnelle et sur les théâtres un peu différente, puisqu'elle est plutôt de nature commerciale, mais elle reste opérationnelle au profit des troupes. Voilà. Et alors, maintenant, surtout en ce moment, plus connu en tant que journaliste, si je peux me permettre, en tout cas commentateur militaire avéré, sur les chaînes de télévision à cause du conflit, même si ce n'est pas tout à fait le sujet d'aujourd'hui. Et j'ose le dire, je n'ai jamais dit que j'ai toujours apprécié le... Bon, c'était le chef au départ, on ne dit rien. Mais j'ai toujours apprécié la mesure et la précision du propos qui, je trouve, te permet de dire ce que tu veux, finalement. Parce que tu seras toujours capable de répéter la même chose après. Ça, c'est très appréciable. Et on suit très, très bien le propos. Donc aujourd'hui, on a demandé au général Dominique Trinquant de parler de la politique de défense sur la France. Pour être très, très honnête, c'est un sujet qui m'était proposé par le club de participation, par son président, monsieur Pierre Périllon, et qui était, le but, c'était vraiment, dans le cadre des élections présidentielles qui arrivent, quelle réflexion on peut avoir dans un club finalement à la fois ouvert, mais à la fois fermé, sur ce qu'est la politique de défense. Et c'était vraiment ça le sujet. Aujourd'hui, l'actualité nous rattrape, mais l'idée, c'est quand même de rester sur ce sujet-là, qui, en tout cas, nous semblait passionnant au niveau de l'association de Minerve. Donc, Dominique, je te laisse la parole, et un grand merci pour ton intervention.
Alors, merci beaucoup d'abord de m'avoir invité. Je suis heureux, bien sûr, de voir l'armée française est équipée d'idées. Bonjour, vous avez votre naissance.
Ça marche pas. Non, ah pardon, excusez-moi, je reprends. Donc je suis heureux, merci beaucoup de m'avoir invité, et je suis heureux de retrouver Olivier à l'époque où nous étions sur des engins blindés de reconnaissance, un engin qui avait été conçu avant la Deuxième Guerre mondiale. Je suis également heureux de saluer des têtes connues et tout particulièrement le général de Laprelle, sous lequel j'ai eu l'honneur de servir en ex-Yougoslavie. Une opération qui psychologiquement nous rappelle un peu ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire la mentalité serbe et des Russes qui est assez proche. Et de pouvoir parler donc de la politique de défense de la France. Alors, je n'ai pas préparé de PowerPoint, comme tu me le demandais tout à l'heure, tout simplement parce que je n'ai pas eu le temps. Et je vais essayer de me sortir la tête de l'Ukraine, parce que, évidemment, c'est un peu mon quotidien, jour et nuit, quasiment en ce moment. Voilà. Et élargir le débat sur cette politique de défense de la France avec je vous le dis tout de suite, un prisme particulier, parce qu'il se trouve que il y a 5 ans, lors de la campagne précédente, j'étais dans l'équipe défense du candidat Macron à l'époque. Donc, on avait déjà une vision sur ce qu'était la défense et ce qu'elle devrait devenir. Et ça imbibe très certainement un peu ce que je vais vous dire. Alors, lorsqu'on fait un retour un peu en arrière et nos têtes blanches ou dégarnies comme la mienne nous rappellent parfois de monter très en arrière, mais je prends des chiffres qui remontent à 30 ans, 1990, le budget de défense de la France était de 39 milliards. En 2002, il était de 30 milliards. Donc, ceci simplement pour vous illustrer. Alors, je ne parle pas des pourcentages de PIB, on en parlera après, parce que c'est un chiffre un peu faux à donner. Ça veut dire qu'on a une décroissance permanente du budget des armées. C'est ce qu'on appelait les dividendes de la paix. Et nous avons eu la chance, je le souligne, d'avoir des chefs d'état-major qui se sont toujours battus pour garder tous les échantillons nécessaires. On aurait pu dire, bon, bah, OK, on va faire une impasse sur tel système d'armes, tel, etc., parce qu'on ne peut pas donner partout. À l'époque, nos chefs d'état-major, moi, j'ai bien connu en particulier les chefs d'état-major de l'armée de terre, mais aussi les chefs d'état-major des armées, ont insisté pour que nous puissions, dans cette décroissance, garder un peu des capacités partout. Alors, la remontée, alors d'abord, oui, les deux phénomènes, c'est les budgets qui baissent, et puis naturellement, la suspension de la conscription pourrait être tout à fait égale, mais en fait, ça veut dire la fin de l'armée d'appeler, ce qui a diminué considérablement les effectifs, et comme vous l'a dit Olivier de Lamotte, j'ai servi dans l'armée britannique également, j'ai fait l'école de guerre anglaise, j'ai fait le Royal College of Defence Studies, et quand j'étais lieutenant, je m'obstinais à aller passer 15 jours dans un régiment britannique. Donc je savais ce que c'était que l'armée professionnelle. Et lorsque nous sommes passés en armée professionnelle, j'ai dit, on n'a pas pris la mesure de ce qu'était une armée professionnelle. On a fait du copier-coller en croyant qu'on passait comme ça. Et aujourd'hui, je pense qu'on est en train, depuis récemment, de découvrir ce que c'est qu'une armée professionnelle. Donc, simplement sur les chiffres, décroissance dividende de la paix, passage à l'armée professionnelle, fin de la conscription. Et puis, il y a eu un bref sursaut au moment où il y a eu les attentats en France, où d'un seul coup, on a dit qu'il faut remettre 10 000 hommes. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, on a remis 10 000 hommes d'un seul coup, mais sans rien changer. C'était pour faire face à la menace immédiate. Et donc, pour en revenir à il y a 5 ans, ne croyez pas que je sois partisan parce que j'ai travaillé dans l'équipe, mais il faut reconnaître que c'est à partir de ce moment-là qu'on a décidé de réaugmenter le budget de la défense avec 1,7 par an, 1,7 milliard par an. Et en fin de loi de programmation militaire, 3 milliards par an. Alors, petit commentaire, c'est très bien d'avoir des lois de programmation. Celle-ci, pour l'instant, est intégralement appliquée. Toutes les lois de programmation précédentes, sur 5 ans, ont perdu une annuité. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on vous disait, on vous promet tant, et au fur et à mesure des coups de rabot, on perdait une annuité. Depuis 5 ans, elle est appliquée, et donc il y a 1,7 milliard. Alors, petit commentaire sur ce sujet, pourquoi pas plus ? Je me souviens, mais il faut faire plus, il faut donner 4 milliards tout de suite, etc. À l'époque, au passage, avec le chef d'état-major des armées de l'époque, qui est un de mes bazars, donc je peux en parler, il disait, non, mais la marche, il faut la grimper plus haute tout de suite, 3 milliards tout de suite. Et ça n'a pas été fait pour deux raisons. La première, le candidat de l'époque me disait, non, ma marche, elle est comme ça, parce qu'on lui disait même, pourquoi est-ce que vous visez 2025 ? Parce que la législature, c'est 2022. Donc, pour être crédible, il faut dire, je vais faire ce que je peux faire pendant ma législature. Il disait, non, je ne pourrais pas parce que financièrement, je n'y arriverai pas. Bon, ça, c'était son côté Bercy qui lui faisait dire ça. Nous, on disait autre chose. On disait une armée qui a été en décroissance pendant 25 ans, vous ne lui remettez pas le booster la première année. Les programmes d'armement, comme vous le savez, ce n'est pas dans cette enceinte que vous me détromperez, ça prend du temps. Et donc, il faut progressivement monter en charge pour arriver à avoir une armée au bon équipement, mais ce n'est pas du jour J plus 1 que ça arrive. Il faut monter ça. Donc, c'est pour ça que ce budget a été mis à 1,7 pendant les premières années, trois premières années, et à 3 milliards, en prenant en compte, bien sûr, la rénovation de la dissuasion nucléaire, qui est un sujet important, qui représente quelque chose de très important. Donc, cet argent est en croissance. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a décidé de rééquiper, pour l'armée de terre, je parle, on a décidé de rééquiper ce qu'on appelle l'échelon médian. Remplacer les VAB, remplacer les amis dissercés, tout cet échelon médian. Les chiffres que me donne l'armée de terre aujourd'hui, c'est nous sommes en phase de réparation, nous serons rénovés en 2030. 2030, c'est dans 8 ans. Un rapport vient de sortir de députés des commissions qui ont fait un rapport sur la capacité des armées à affronter une guerre de haute intensité. Vous savez que la guerre de haute intensité, c'est quelque chose qui a été répété par le SEMA précédent, le général Lecointre, et repris par le général Burkhardt. Et dans ce rapport, on l'explique. Alors moi, sur les plateaux, on ne me pose pas trop cette question. On me dit, est-ce que l'armée française serait capable d'eux ? Bon, alors, je suis assez évasif. Mais on dit que notre problème majeur, il est aujourd'hui, avant les problèmes d'équipement, des problèmes de stock de munitions. Alors ça me rappelle des vieux souvenirs. Quand j'étais officier plan du 2e corps en 87-88, face à la trouée de Fulda, l'OTAN nous demandait toujours où en sont vos stocks. Et la France dégageait à droite en disant « ce n'est pas votre problème, c'est un secret défense, on n'a pas à partager ces chiffres avec vous ». Ceci étant, on savait très bien que nos stocks de munitions étaient très bas. Donc, les efforts que la France fait aujourd'hui de réparation des armées, aussi bien de l'armée de terre que de la marine, et de l'armée de l'air, ce n'est qu'une réparation. Et la guerre de haute intensité, aujourd'hui, au moment où je vous parle, on n'est pas prêt. C'est clair. C'est quelque chose qui doit monter en puissance. Alors aujourd'hui, je n'ai pas regardé tous les programmes des candidats parce qu'il n'y a quasiment pas de campagne présidentielle. Donc, c'est un peu. On ne m'invite pas beaucoup sur les plateaux pour parler de ça. On m'invite plutôt pour parler de ce qui se passe en Ukraine. Mais c'est sûr que tout le monde vous dit qu'il faut augmenter le budget. Et pour vous révéler quelque chose qui n'est pas public et que, voilà, moi, je m'inquiétais un petit peu, mais il y a 2 mois ou 3 mois, je disais, mais est-ce que vous êtes sûr que les 3 milliards seront appliqués ? Et il y a encore 2 mois, 3 mois, pas de son, pas d'image, personne ne répondait. Et là, depuis 3 semaines, on dit... On ne parle plus des 3 milliards, on dit qu'il faudra augmenter. Pour moi, augmenter, c'est augmenter par rapport à la loi de programmation. Donc, voilà les perspectives globales en chiffres budgétaires de ce qui se passe. Maintenant, dans le détail. Dans le détail, on voit bien que la réparation, les véhicules blindés, etc., tout ça, c'est en voie, avec des grosses incertitudes sur les programmes franco-allemands. Sur les avions, Dassault a beaucoup de chance. Dassault vend plein de rafales. Donc, comme d'habitude, comme un industriel, il dit « Pourquoi je partagerais avec quelqu'un quand je peux faire tout seul ?» Donc, c'est un peu l'inquiétude qu'on a, sachant que les Allemands sont compliqués sur ce sujet et qu'ils n'ont pas vraiment une compétence aérienne reconnue. En revanche, sur les chars, oui, ils ont une certaine compétence. Et là, on voit qu'ils ont réussi quand même en mettant 2 sociétés, il n'y en avait qu'une au départ, mais maintenant il y en a 2 allemandes, face à une société française, on est dans une situation difficile pour discuter tout ça. Maintenant, je ne connais pas le détail, hein, mais je sais que c'est très difficile. Donc, après avoir mis en place tous ces moyens financiers et avoir des projections de programmes de long terme, il y a trois domaines dans lesquels qui sont nouveaux et sur lesquels on doit travailler. Le cyber, il y a un commandement du cyber maintenant, et on doit travailler beaucoup cet outil-là. Mais on se rend compte que le cyber, en fait, et je parlerai, ça va m'amener progressivement à parler de l'Europe de la défense. Le cyber, tout seul, ça ne marche pas très bien. C'est un autre espace, il faut être en communication avec tout le monde. Chez les Européens, il y a des gens qui sont extrêmement performants, les Estoniens en particulier, et on sent qu'il y a des centres d'excellence. Et je vais glisser allègrement de l'Union européenne à l'OTAN, parce que tout ça, c'est un peu pareil. Le centre d'excellence cyber OTAN, ben, c'est le même pays qui travaille sur le cyber à l'Union européenne. Donc on voit déjà qu'il y a une petite confusion. Enfin, pas confusion, l'autre jour, j'étais sur un plateau télévisé et il y avait M. Borrell qui parlait. Et j'étais frappé parce que l'OTAN venait de refuser l'exclusion aérienne à l'Ukraine. Et M. Borrell, qui chacun sait, est à l'Union européenne, parlait de ça comme s'il était à l'OTAN. Et donc, je trouvais qu'il y avait un mélange des gens qui était intéressant. Et on parlera après de la défense européenne et du pilier européen dans l'OTAN. Mais il y a quelque chose qui est intéressant. Bon, aujourd'hui, j'ai vu arriver tous les chefs d'État à Versailles. Ils vont parler un petit peu de ça. Voilà. Donc, le cyber est un sujet, mais qui ne peut pas être que français. Il est partagé. Le spatial, c'est la même chose. Avec Ariane 6, une grande partie, c'est payé par des finances allemandes. Donc, c'est un sujet commun. Donc, ce que est l'Union européenne, alors là, c'est miracle. Enfin, miracle. Je dis que le président Poutine a réussi à trois victoires à se reprocher dès aujourd'hui. Il a ressuscité l'OTAN, il a réveillé l'Union européenne et il a regroupé tous les Ukrainiens. Ce n'était pas forcément l'objectif qui s'était fixé, mais c'est celui qu'il a atteint. Alors, pour revenir sur ces deux sujets, je ne vais pas parler des Ukrainiens naturellement, mais des sujets de l'OTAN et de l'Union européenne, sujets stratégiques. Dans ma carrière, pendant 2 ans, entre 2 passages à New York, j'étais responsable à l'état-major des armées de la coopération entre les armées françaises et l'Atlantique à l'Asie centrale. Oui, c'est assez large, j'avais 44 attachés de défense. Et donc, j'avais tous les attachés de défense européens. Et quand j'allais discuter avec eux, à l'époque, nous n'avions pas encore rejoint le commandement intégré de l'OTAN. Dès qu'on leur parlait Union européenne, ils vous disaient « Non, mais attendez, les Français, vous nous emmerdez avec votre truc, là. C'est toujours pareil, vous mettez l'Europe en concurrence avec l'OTAN. Mais nous, c'est l'OTAN, notre parapluie. » Et donc, j'avais été un fervent défenseur de rejoindre le commandement intégré de l'OTAN, essentiellement pour devenir crédible auprès des pays européens. Parce que quand on participe à l'OTAN, qu'on est un des premiers contributeurs à l'OTAN, qu'on est présent en Estonie, en Pologne, maintenant en Roumanie, ben là, on peut parler de l'Europe de la défense parce qu'on contribue à l'OTAN. Quand on ne contribue pas à l'OTAN, tous les pays européens nous disent, c'est comme d'habitude, les Français, vous voulez faire votre truc à part, sauf que pour décider à 27 au sein de l'Union européenne, ben, il faut que les 27 soient d'accord, enfin les 26 autres. Quand on discute à 30 au sein de l'OTAN, il faut que les 29 autres soient d'accord. Donc, c'est pour ça que je pense que vraiment cette défense européenne a reçu un accélérateur fantastique, mais va s'inscrire d'une certaine façon comme un pilier européen de l'OTAN. Alors, j'illustre mon propos sur l'accélération de l'Union européenne. J'en parlais tout à l'heure, sur la Facilité européenne de paix. C'est un outil tout neuf qui a été mis en place au mois de mai ou juin. et qui est un outil à part, c'est-à-dire que ce n'est pas un budget, ce sont des engagements des pays européens à fournir de l'argent pour aider les pays qui en ont besoin dans le développement de la défense. Pardon. Donc, moi, naturellement, tout à l'heure, on l'a rappelé, je travaille toujours dans le domaine de la défense avec Marc et Balzan, et en particulier sur le domaine de l'équipement des contingents africains dans le cadre des opérations de paix. Et donc, je me disais, Facilité européenne de paix, fantastique, enfin, on va mettre en place des moyens. Il faut savoir que dans cette discussion, pendant des mois, la France s'est opposée aux autres pays européens sur la livraison d'armement létal. Il y avait des pays qui mettaient un veto, qui ne voulaient pas qu'on livre de l'armement létal. Des mois. Là, en 48 heures, ça a été bâclé, on livre de l'armement létal aux Ukrainiens, financé par la Facilité européenne de paix. Deuxième sujet, il y avait la boussole stratégique. Boussole stratégique, c'est pour ne pas dire livre blanc. C'est un peu pareil, c'est un livre blanc européen. Depuis des mois, tout le monde travaillait là-dessus. Ça a été présenté au Parlement européen, la Commission européenne, qui et chacun ont fait leur petite remarque. Et puis, le 3 mars, une nouvelle mouture est arrivée. 3 mars, c'est après l'attaque russe. Et là, je n'ai pas encore la dernière version, puisqu'elle est présentée là au chef d'État. Et je crois, doit être, si ce n'est pas signé cette semaine, ça sera signé à la fin du mois de mars, je crois. Et là, d'un seul coup, on disait, il faudrait que nous réfléchissions à la possibilité de... Et là, d'un seul coup, on n'a plus ça. Il faut aujourd'hui faire cela, cela, cela. Donc, on voit bien qu'il y a une accélération considérable. Quand je parle du pilier européen de l'OTAN, ça veut dire quoi ? Ça veut dire pour la défense européenne. Parce que, alors là, je reviens à mon chapeau onusien ou africain, on avait monté une opération que je trouvais très, très bien, qui s'appelait Takuba, les opérations spéciales au Sahel. Et ça, pour moi, c'était une belle réussite parce que c'était bottom-up. C'est-à-dire qu'on attirait des forces spéciales qui étaient ravies de travailler avec des forces spéciales françaises en Afrique, parce que quand même, les Français, ils savent faire, donc on va travailler avec eux. Et ça permettait de travailler ensemble. Et quand vous avez des forces spéciales qui sont sur le théâtre d'opération, les comptes rendus quotidiens dans les capitales alimentent la capitale sur ce qui se passe. Et à l'époque, nous, c'était pour le front sud, c'était le Sahel. On a cherché à convaincre les Européens qu'il fallait se battre au sud parce que la menace était au sud, alors que les Européens, ils regardaient tous à l'est. Bon, alors on a eu un double problème. Le Mali ne veut plus de nous. Takuba quitte le Mali. J'ai compris que les Européens allaient rester quand même, en particulier au Niger. Et puis, surtout, maintenant, la menace, elle est à l'Est. Et donc, on doit se reconcentrer. Et je reviens à mon sujet sur le changement stratégique qui s'opère en ce moment, c'est que nous devons être de bons élèves dans l'OTAN. Au passage, par le plus grand des hasards, la France est pays leader de la réaction rapide de l'OTAN, qui était en alerte depuis le 1er janvier, à terre et en l'air. D'où le bataillon qui est déployé en Roumanie avec des Belges, parce que c'était le bataillon en alerte, en fait. On ne l'a pas sorti de nulle part. C'est le bataillon en alerte dans le cadre de la QRF, ça ne s'appelle pas comme ça, je crois, mais QRF de l'OTAN, et on le déploie. Deuxièmement, volet aérien. On a déployé tout de suite des rafales en Pologne, à partir de Mont-de-Marsan, vous imaginez un peu la gymnastique avec les ravitailleurs, etc., pour marquer la présence française au-dessus du ciel polonais. Autre élément qu'on ne montre pas là, mais dont j'ai les informations, il y a un gros exercice qui était prévu en Norvège. Donc, c'est le Roumanie, c'est le front sud, Norvège, c'est le front nord. Et nous avons décidé de maintenir cet exercice. L'OTAN a décidé de maintenir cet exercice avec la participation de 3000 Français, s'il vous plaît. Donc ça veut dire globalement que la brigade alpine, qui était en alerte, elle est au sud, en Roumanie, elle est en Estonie, puisqu'on va remplacer le groupement qui est là-bas, et elle est dans le nord, en Norvège. Donc je vous décris tout ce processus actuel pour vous montrer, comme l'a dit le président de la République, mais tout le monde le dit un peu, On a tourné une page. La guerre est revenue en Europe. Je me retourne vers le général de Laprelle. Lorsque nous étions en ex-Yougoslavie, quand nous avons terminé ça, on disait, ça y est, il n'y a plus de guerre en Europe. C'est fini. Alors, il y a le Kosovo. Pardon, je ne suis pas parti pour le Kosovo, il ne faut pas que je l'oublie. Il y a le Kosovo. Mais après, on a dit, c'est fini. Il n'y a plus de guerre en Europe. Et en fait, non. Et quand vous discutez avec les pays de l'Est, les Polonais, les Baltes, etc., ils vous disent, mais vous avez été plein d'illusions de croire que c'était fini. Nous, on les connaît. Ce n'est pas fini. Ils ont toujours été comme ça. Et ils vont continuer comme ça. Et ils nous disent aujourd'hui, attention, après l'Ukraine, c'est la Moldavie. Après, ça risque d'être plus compliqué parce qu'ils vont s'attaquer à des pays de l'OTAN. Donc là, ça devient quand même un peu chaud. Sauf à ce qu'ils aillent en Finlande, qui ne fait pas partie de l'OTAN, je le rappelle. Mais maintenant, la Finlande et la Suède commencent à y réfléchir. Donc, je crois qu'aujourd'hui, la conjonction du fait qu'il y a 5 ans, on a décidé de réaugmenter les budgets et le fait que la menace avec le combat de haute intensité se précise vraiment, on est sur une augmentation des budgets français, mais européens. Un journaliste me disait en s'amusant, si on nous avait parlé il y a 25 ans que l'Allemagne réarme et qu'on l'applaudissait, tout le monde aurait trouvé ça étrange. L'Allemagne réarme. Alors là, elle a décidé de mettre 100 milliards sur la table d'un seul coup. Je ne sais pas ce qu'ils vont en faire. Ça va être compliqué quand même. Mais ils n'ont qu'à remonter déjà tous les stocks de munitions. Ça sera déjà pas mal. Mais c'est un vrai sujet. Tous les pays commencent à réarmer, voire à remettre la conscription en place, comme c'est le cas en Suède, par exemple. Donc, je pense que cet amorçage qui a été fait chez nous il y a 5 ans, mais de façon modérée, il faut bien le dire, avec la menace qui se présente aujourd'hui, va nous amener à avoir tous les budgets européens qui vont augmenter. En gardant bien à l'esprit que, certes, l'OTAN sait bien, mais que les Américains se mouilleront moyennement. Leur théâtre, il est dans le Pacifique quand même. Donc, il faut qu'on renforce absolument notre pilier européen et par ce biais-là, que la défense européenne, petit à petit, prenne ses marques et se construise. Alors, je dis surtout, sur le plateau télévisé, bannissez armée européenne. Parce que ça, d'abord, ça fait peur. Je rappelle que le Brexit, où il y a eu une manipulation extraordinaire en Grande-Bretagne, mais dans le domaine défense, il sortait toujours, jamais on aura une armée européenne comme les Européens le veulent. Et j'avais beau dire, c'est pas vrai, on avait du mal à le dire. Donc, ça n'est pas une armée européenne, c'est une défense européenne qui va devoir d'abord coordonner les moyens de chacun des pays, s'assurer qu'il n'y a pas de doublons, s'assurer que c'est utilisé de la meilleure façon possible. Le Fonds européen de défense, ne pas confondre avec la Facilité européenne de paix, le Fonds européen de défense, il est fait pour quoi ? Il est fait pour mettre de l'argent dans l'innovation de la défense sur des projets communs. Il faut au moins 3 sociétés de 3 pays différents qui se groupent. Donc, on y arrive progressivement. C'est un processus de long terme, donc on croise les doigts, mais le spectacle que nous donne l'armée russe aujourd'hui nous incite à penser qu'ils hésiteront à 2 fois à se heurter à l'OTAN, même avec les moyens limités que nous avons aujourd'hui. On peut toujours être optimiste. Mais ceci étant, c'est quelque chose qui est pris en compte aujourd'hui, cette croissance des budgets et cette coordination au sein de l'Europe d'un certain nombre de projets. Dans ce que j'ai lu sur la boussole stratégique, il y a un sujet qui m'a intéressé. Vous savez, il y avait l'initiative européenne qui a été lancée il y a quelque temps. C'était le président Macron, je crois, qui l'avait lancée, avec des pays européens. Donc, c'était avec géométrie variable. On n'était pas obligé d'être 27, on pouvait être 10, 5, etc. Et sur des projets particuliers, la santé, la logistique, le franchissement, enfin, vous voyez, des trucs très pointus comme ça. Et j'ai vu que dans la boussole stratégique, là où l'investissement doit être fait tout de suite, c'est sur le transport stratégique, le transport intra-européen. Là aussi, ça nous a, même aux années pré-90, Quand on était stationné en Allemagne, on connaissait très bien les plans de mouvement, les ponts qui supportaient les chars avec les porte-chars, les machins. On connaissait tout ça par cœur. On a abandonné un peu tout ça. D'ailleurs, le général Burkhardt me faisait le SEMA me faisait une remarque il n'y a pas longtemps, parce que je lui parlais de cette expérience que j'avais eue au deuxième corps, dans les plans d'engagement du deuxième corps, Charming Gorilla, en fait, tous ces plans qu'on avait, qui étaient des plans réels. Hein. Et il me disait, vous savez, le problème, c'est que notre génération après, il faut qu'on réapprenne tout ça. On a oublié. On combattait dans le Sahel, remarquablement, très bien, mais on avait oublié tout ça. La coordination interarmée, interalliée sur ces théâtres, c'est quelque chose qu'il faut qu'on redécouvre, qu'on sorte et qu'on réapprenne. D'où ce qui est monté aujourd'hui. Nous sommes dans l'enceinte de l'école militaire. Moi, j'ai été frappé du nombre d'Européens qui sont stagiaires à l'école militaire, qui sont à l'école de guerre française. Et vous savez qu'il y a des projets pour qu'on ait des écoles de ce type, plus européennes, où on regroupe un peu tous ces Européens pour y travailler ensemble. Quand j'étais au Royal College of Defence Studies, je disais qu'on était un tiers d'étrangers. Et je souhaitais que le CHEM fasse la même chose. CHEM IHEDN. J'avais fait un rapport à l'époque. Bon, 15 ans après, je m'aperçois que ça a progressé très, très longtemps. Hein. On a trois étrangers. Mais c'est une nécessité parce que nos engagements ne seront qu'interalliés. La prochaine manœuvre importante française, qu'on n'a pas fait depuis des lustres, va regrouper en 2023 30 000 hommes. Il y a combien de temps qu'on n'avait pas fait ça en France? Je ne sais pas. Mais quelqu'un pas, vous vous rendez compte? 85, hein, c'est fou. Donc c'est, on est en train, l'Europe est en train de redécouvrir la guerre, les armées françaises sont en train de redécouvrir la guerre. Je voudrais juste terminer par un point, je pense que je suis dans le créneau. Alors, ouais. La défense, c'est global. Aujourd'hui, à Versailles, on ne parle pas que des armées. On parle du gaz, du pétrole, des moyens à mettre en place. La défense est globale. Et la défense, je me plais souvent à citer Thucydide, qui disait que la défense d'un pays, enfin la défense de la cité, ne reposait pas seulement sur ses remparts et ses vaisseaux, mais sur le moral des citoyens. Donc un petit volet là-dessus. Nous n'avons plus de conscription, plus d'appelés. Mais la population française doit être formée là-dedans. Alors, pardonnez-moi de revenir à cette campagne électorale, mais j'avais suggéré à l'époque de remettre en route quelque chose qui s'appellerait le service national. Pas le service militaire, le service national. Et donc, c'est ce qui a été mis en œuvre avec le service national universel, qui aujourd'hui, personne ne le voit, mais moi, je suis ça de très près. J'étais avec Gabriel Attal, qui a été le premier chargé de mission, et maintenant... Madame Melaheri, qui est la deuxième. Cette année, c'est 20 000 jeunes volontaires, parce qu'il faut passer ensuite à l'étape suivante, qui est le caractère obligatoire. Rendre obligatoire pour les 750 000 jeunes français de 16 ans de faire une période bloquée d'un mois avec 15 jours en internat où on va leur apprendre secourisme, vie en commun, etc., etc. Et on va les informer sur la façon dont ils pourront servir leur pays. Alors, les armées qui étaient très fermées au départ se disent, mais finalement, pour le recrutement, c'est pas mal. Ça va nous servir. Mais ça peut servir la Croix-Rouge, les ONG, les villes, les régions, etc., etc. Donc, 15 jours obligatoires en internat, 15 jours où les jeunes se lancent sur un projet. Et donc, je pense que il faut bien que nous voyions aujourd'hui que l'outil de défense de la France, ce n'est pas seulement des armées efficaces, ce que nous avons encore expéditionnaire, si j'ose dire, qu'on va renforcer pour être capable de défendre avec les Européens et au sein de l'OTAN l'Europe, avec les frontières qu'elle connaît aujourd'hui, mais c'est aussi de renforcer tous les moyens rendre moins vulnérable notre pays. Alors, on parlait par exemple du gaz russe. Nous sommes dépendants à 17% grâce à nos centrales nucléaires. Les Allemands sont dépendants à 60%. Les Finlandais à 100%. Les Pays-Baltes à 100%. Donc, il faut reconsidérer tout ça. Autre sujet, on va rentrer dans une période extrêmement difficile où vous avez vu le prix du carburant grimpe comme ça. Je vous rappelle les gilets jaunes. Donc, il faut prendre des mesures pour protéger un certain nombre de gens qui n'en vont pas pouvoir encaisser ce choc. Donc, le travail sur la résilience, qu'elle soit économique, culturelle, civique, c'est un autre travail qu'il faut faire absolument. Donc, pour moi, les vaisseaux, les remparts de la cité, c'est bien, mais le moral des citoyens, c'en est un autre. Et ça n'est pas être défaitiste, c'est au contraire, comme les Ukrainiens, dire on va y aller, on va y arriver. Moi, je suis bluffé par la résistance des Ukrainiens. Et quand on les interroge, ils disent, mais on va gagner. 70% des Ukrainiens aujourd'hui sont persuadés de leur victoire. Il faut un peu qu'on enregistre ça dans nos cerveaux de citoyens bien nourris, sans problème, comme me disaient les Américains. En France, vous êtes extraordinaire. Vous avez les 35 heures, la sécurité sociale, 5 semaines de congés payés et vous faites la grève. Il faut impérativement que notre pays, et l'Europe globalement, il n'y a pas que notre pays, se réveille et se dise « nous sommes extrêmement nantis et il faut absolument se réveiller et donner des outils pour notre défense. » Mais la défense de notre pays, c'est la société au total qui doit défendre notre pays. Voilà. Je n'ai pas été ni trop court ni trop long. Je suis à peu près dans les… Voilà, alors je ne suis pas rentré dans les détails des chiffres, parce que je pense très honnêtement qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Dans les chiffres qui sont donnés, l'augmentation des budgets, c'est une chose, mais maintenant, le CEMA en parlait, il dit on a un problème de masse et on va y arriver. Et on a beaucoup de chance en France de ne pas avoir trop de problèmes de recrutement. Il y a des pays qui ont beaucoup de problèmes de recrutement. Avec l'armée britannique, a fait un choix complètement différent. Elle a fait un choix sur la marine, c'est une grande tradition britannique quand même, et les missiles nucléaires, mais elle diminue beaucoup ses effectifs de son armée de terre. Mais c'est essentiellement parce qu'elle n'est pas capable de recruter. Elle a des bataillons qui ne sont pas à 100%. Nous, on a de la chance d'avoir des régiments qui sont avec l'effectif normal. Donc, je pense que c'est un autre sujet qu'on va se poser. La loi de programmation, maintenant, est lancée avec les 3 milliards sur les deux années suivantes. Je pense que la loi de programmation suivante, en fonction de l'évolution de la situation dans les semaines qui viennent ou mois qui viennent, devra être vue pour s'adapter et se placer dans un cadre plus européen pour que nous n'ayons pas des doublons et des systèmes qui seraient pris par tous les pays européens. Et je pense que les pays européens, aujourd'hui, parce que nous avons fait l'effort de se mettre à leur iota, c'est-à-dire nous sommes des participants actifs à l'OTAN. Et donc, vous pouvez, et nous avons augmenté nos budgets depuis un petit moment, donc vous pouvez nous croire et on va travailler ensemble. Je crois que c'est mon côté optimiste, mais je crois que c'est en train de fonctionner. Voilà, merci beaucoup et je suis naturellement prêt à répondre à toutes vos questions, y compris à tous les sujets que je n'ai pas abordés. Je n'ai pas abordé le nucléaire du tout, que vous vouliez aborder tout à l'heure, mais bon, c'est un sujet un petit peu à part, mais c'est prévu dans la loi de programmation, dans les 3 milliards, il y a la modernisation, bien sûr, de la dissuasion nucléaire. On a un peu de mal à expliquer à nos concitoyens qui mélangent d'abord le civil et le militaire, et puis ensuite de... La dissuasion, c'est un sujet qui est un petit peu compliqué à comprendre pour eux, surtout quand on a en face des Russes qui, eux, ont une arme d'emploi, un peu différent. Voilà, comment on fait pour les questions ?
Oui, merci.
C'est rouge. Ça y est, c'est vert.
1, 2, 1, 2. Oui, merci. Vous avez fait une discrète allusion à l'état de l'armée russe. Vous pouvez développer un petit peu ?
Oui. Alors là, on va rentrer dans la guerre en Ukraine. des observations que j'ai, hein. Faut pas tout prendre pour argent comptant, mais il se trouve que quand on est sur les plateaux comme ça, on a beaucoup d'informations, beaucoup d'images, beaucoup de choses très, très intéressantes. Au passage, j'étais à New York en 2003-2004 et donc j'avais beaucoup de doutes sur l'information que les Américains pouvaient donner avant la guerre. Je n'en ai plus. Ils sont extrêmement bien informés. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que le premier qui est allé à Moscou pour discuter avec les Russes, envoyé avant la guerre, hein, c'était le chef de la CIA. Et à mon avis, c'était pour leur dire, les gars, on sait. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que d'abord, pour revenir à l'état de l'armée russe, il est très inégal. On a vu des unités avec des appelés absolument pas préparées à faire la guerre. Mais là aussi, force morale, psychologiquement, qui, lorsque leur véhicule tombait en panne, abandonnaient leur véhicule et partaient avec le sac à dos, qui étaient accrochés par des Ukrainiens, qui leur donnaient un téléphone portable, qui les nourrissaient d'abord parce qu'ils n'avaient pas de nourriture, qui leur donnaient un téléphone portable en disant « appelle ta maman et raconte-lui ». Et le soldat racontait « je croyais que j'étais en manœuvre, je ne savais pas qu'on partait à la guerre ». Donc ça, c'est un aspect. En revanche, moi, au sud, j'ai l'impression qu'on a l'armée russe telle qu'on se l'imaginait, le pacte de Varsovie avant 90. Le rouleau compresseur, ils avancent avec des unités blindées mécanisées, avec de l'artillerie, avec de l'appui aviation, et ils avancent. Au rythme russe, ce n'est pas très rapide, mais c'est meurtrier. Quand on voit ce qui se passe à Mariupol, bon, pas de problème, ça frappe. Quand on voit ce qui se passe autour de Kiev, ça frappe. Mais en revanche, dans le détail, des trucs incroyables. Le GPS ne fonctionne pas. Ils utilisent Google Earth pour se repérer. Au passage, c'est pour ça que les réseaux Internet ne sont pas coupés. Ils auraient pu les couper s'ils avaient leur réseau autonome. Non. Donc, les Ukrainiens l'utilisent pour faire de l'information de leur côté. Le soldat qui appelle avec le téléphone, il est filmé et c'est envoyé sur les réseaux sociaux et ça passe en Russie. Donc, les armes à guidage terminal de précision, ils en ont utilisé probablement 150 à 200 le premier jour, et probablement qu'ils ont les mêmes problèmes de stock que nous. Ils n'en ont plus. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? C'est les avions russes qui sont obligés de voler bas pour larguer des bombes lambda, et du coup, qui sont vulnérables aux Stinger. Et il y a des avions russes qui ont été détruits au Stinger, ce qui fait qu'ils n'emploient pas toute la force aérienne russe parce qu'ils ont peur de perdre beaucoup d'avions. Qu'est-ce que j'ai à vous donner comme autre exemple ? Alors, tactiquement, j'en parlais en plaisantant tout à l'heure, parce qu'ancien commandant de régiment de chars, quand j'ai vu ce qui s'est passé hier, une colonne de ce 6e régiment de chars russe empilée dans un village et subissant les frappes ukrainiennes guidées par un drone et empilées. Donc, je veux dire, tactiquement, n'importe quoi. Est-ce qu'ils étaient empilés parce qu'ils étaient en train de piller les magasins à côté ? J'en sais rien, parce que ça, on l'a vu, hein, les images des soldats qui ne sont pas nourris et qui pillent les magasins. Donc, gros problème de logistique, gros problème de connexion. Ah oui, j'oubliais, leurs communications ne sont pas chiffrées. Ils parlent en clair. D'où l'interception de tous les réseaux. Donc, si vous voulez, on a l'impression qu'il y a un réarmement de la Russie qui s'est fait depuis 20 ans avec des T-90, avec plein de choses comme ça. Mais la logistique est restée aussi déficiente qu'elle l'était autrefois. Qui se sont gargarisés un peu de ce qu'ils ont obtenu en Tchétchénie et en Syrie, mais qui comprenaient des troupes très, très professionnelles et en faible nombre, et puis les avions et les systèmes antiaériens. Mais en revanche, la grosse masse de l'armée de terre, elle est très inégale. Les troupes parachutistes, ils ont voulu prendre un aéroport qui est au sud-ouest de Kiev. Deux Ilyushin 76 ont été descendus par des Stinger avec tous les parachutistes à l'intérieur. Vous imaginez ce que ça peut faire. Transport de... parachutistes, c'est 80 à 90 parachutistes, je crois, hein, dans un Indochine 76. Les avions qui devaient venir, la deuxième vague, étaient en rotation en haut. Elle a fait demi-tour, elle est repartie en Biélorussie. Les Kharkiv avaient été saisis par les forces russes. Contre-attaque ukrainienne qui a ressaisi Kharkiv. Ils ont lâché des parachutistes pas loin qui n'ont toujours pas repris Kharkiv. Donc, voilà, déficience logistique, déficience en équipement et inégalité entre les forces qui sont employées. Voilà ce que je peux dire.
Merci, mon général. J'avais une question. On parle beaucoup des drones dans l'actualité et comme un élément majeur dans la réussite des frappes ukrainiennes sur notamment des blindés russes. Comment, au niveau des Russes, qu'est-ce qu'ils font là-dessus? Est-ce qu'ils ont des drones également? C'est vrai qu'on entend peu parler des drones russes.
Vous avez raison, on entend moins parler des drones russes. Petite parenthèse sur les drones ukrainiens. Il y a beaucoup de choses que je découvre là, en allant sur les plateaux, en discutant avec des spécialistes, en montrant des images. Alors, les drones ukrainiens, ils ont été fournis par la Turquie avant la guerre. Assez peu, hein, il y en a eu 7 ou 8, je crois. Mais d'après ce qu'on sait, ils continuent à les fournir. Premier point. Deuxième point, il y a des drones made in ukrainien. Alors, des tout petits drones, 60 km de rayon d'action, portant 3 bombes de 1 kg, c'est rien. Sauf que si c'est envoyé avec précision sur des convois de citernes, des choses comme ça, ben ça fait des dégâts absolument considérables. Donc, du côté ukrainien, je crois que c'est très bien utilisé. Du côté russe, vous avez raison, on n'a pas l'impression qu'ils utilisent beaucoup les drones. Est-ce que l'armée de l'air russe privilégie ses avions? Est-ce qu'ils n'ont pas des systèmes d'armes adaptés sur les drones? Très honnêtement, je ne le sais pas. Mais vous avez raison, en revanche, pour nous, pour penser à notre armement à nous, les drones, c'est un vrai sujet. Et les Européens ont pris un temps fou, le fameux mal... ça y est, l'accord est signé, paraît-il. Enfin, ça fait des années qu'on attend, des années. On a été obligé d'acheter des drones américains, israéliens, enfin, parce que ça fait des années. Alors, on a des petits drones tactiques maintenant pour la reconnaissance, qui est déjà pas mal, mais des drones pour s'en servir comme une arme, il n'y a qu'au Sahel qu'on s'en est servi. Et c'était, et d'ailleurs, au passage, remarquable efficacité. Hein. On dit que 2/3 à peu près des attaques réussies dans le Sahel, ce sont les drones. Donc, on a intérêt à développer ça très vite, effectivement. Parce que ça a un impact, on a bien vu dans le combat entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Hein. Ça a été radical. Hein.
Ouais. Ouais, j'ai simplement une remarque. Le drone mâle, je crois que c'est 2028, quelque chose comme ça. C'est un bimoteur. C'est quelque chose qui coûte très cher. Alors là, on voit quand même des drones low cost qui infligent des dommages absolument considérables. Est-ce qu'on n'est pas en train de se planter sur le segment qu'on est en train de développer?
Alors, on peut se planter, mais moi, je vais vous parler d'un organisme dont je n'ai pas parlé, l'Agence de l'innovation de défense, hein, qui est pilotée par un type assez extraordinaire, que j'aime beaucoup. Hein. Qu'est-ce que c'est? Ça a été mis en place pour être un accélérateur de l'innovation. Et je crois que c'est un outil utile aujourd'hui et qui sera encore plus utile, parce que je ne vais surtout pas dire du mal de la DGA devant vous, mais bon, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué, c'est lourd. Alors, c'est efficace sur des systèmes de long terme. On parlait du futur char, du futur avion. Il peut y avoir des choses là-dedans. Mais sur ce sujet-là, on s'est aperçu. Alors, les Britanniques étaient assez bons pour ça. Ils mettaient des budgets importants pour l'innovation tout de suite, maintenant, après un retour d'expérience rapide des troupes sur le terrain. Bon, ben, c'est un peu ce que fait l'Agence de l'innovation de défense. Et donc, je pense que là-dessus, on a un créneau qu'il va falloir mieux exploiter. Je suis d'accord.
Moi, j'ai une autre question qui est une question arithmétique. Alors, on change bien, on sent bien qu'on est dans un changement, je dirais, copernicien sur le plan stratégique, qu'on voit le retour des gros bataillons blindés mécanisés de notre jeunesse, de jeunes officiers. Et derrière, se profile peut-être, comme vous l'avez évoqué, le retour du service militaire, qui est le service national universel, qui ne l'est toujours pas. On vous parlait d'un réservoir de 750 000 hommes, 750 000 jeunes citoyens formés par an. Ça fait plus de, enfin, à la louche, plus de 60 000 par mois. Donc 60 régiments de 1000 hommes encadrés, logés, et comment on fait ?
Non, mais alors, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, sur recommandation des armées, qui ne voulaient surtout pas s'occuper de ça, ça a été donné à l'éducation nationale. C'est pour ça, d'ailleurs, que ça a été passé à 16 ans. C'est pendant la scolarité. Là, je ne suis pas rentré dans les chiffres du tout, mais on avait fait des chiffres sur ce que ça coûtait en infra, en machin et tout. C'était 4 milliards, je crois, au total. Je ne connais pas l'évolution du dossier aujourd'hui. Ce que je peux dire sur les questions qu'on peut se poser, en revanche, c'est l'armée professionnelle, bien équipée, bien entraînée, telle qu'on l'a, c'est ce que l'armée veut et c'est ce qu'elle aura. La résilience auprès des jeunes, c'est ce qui va être mis en place et il faudra y mettre des moyens. Et entre les deux, c'est la guerre ukrainienne aujourd'hui qui me fait penser à ça. Est-ce qu'il n'y a pas un système avec une étape suivante, un peu comme en Suisse, de miliciens, de gens entraînés à pas grand-chose, mais à quadriller le terrain, dans le renseignement, dans l'action, etc. etc. Je n'en sais rien. Pour l'instant, il y a eu des papiers qui sont sortis là-dessus. Je ne sais pas du tout où on en est. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que la capacité qu'ont les Ukrainiens aujourd'hui à résister, non pas avec des unités blindées mécanisées, enfin, ils en ont, faut pas exagérer quand même, ils en ont. Mais surtout, par la défense territoriale, c'est quelque chose qui va peut-être t'amener à réfléchir. Voilà. Oui, Olivier.
Je voudrais revenir sur le nucléaire, parce qu'effectivement, dans le schéma, il y a un système global qui est assez attirant. On va parler d'une défense européenne et pas d'une armée. Moi, ça me paraît sain. Je ne vais pas prolonger mon analyse. Le bras armé européen, en fait, je trouve une certaine logique dans cette démonstration, mais pour moi, elle se heurte un peu à la défense, l'arme nucléaire que seule la France possède dans ce système européen maintenant, puisque l'Angleterre n'est plus, etc. Et donc, à un moment donné, on a l'impression que le raisonnement peut se développer assez loin, qui va se heurter au moins, parmi d'autres, à cette utilisation de l'arme nucléaire.
Oui, alors, l'arme nucléaire, comme tu le dis, depuis que les Britanniques nous ont quittés, et en plus, il faut savoir que la défense nucléaire britannique n'est pas britannique, c'est une double clé avec des Américains. Donc l'arme nucléaire française, arme de dissuasion, donc de non-emploi, de frappe majeure si on est agressé. Plusieurs fois, ça a été avancé. En fait, c'est lorsque les intérêts stratégiques de la France sont touchés. Est-ce que les intérêts stratégiques de la France commencent en Pologne ou pas? Je pense que c'est quelque chose qui ne sera jamais dit. Ce sera jamais dit pour deux raisons. D'abord, parce qu'il ne faut pas fixer une ligne à franchir, sinon on est trop lisible. Et la dissuasion nucléaire ne doit pas être lisible, sinon on a un petit problème. C'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que nous, en France, on est habitués à la dissuasion nucléaire. Donc, quand on en parle avec le citoyen moyen, il ne comprend pas trop le sujet. Mais on est habitué à ça. Aller en parler à des pays européens qui ne sont pas du tout versés dans ce sujet-là, vous allez avoir, souvenez-vous, les missiles sont à l'est, les verts sont à l'ouest. C'était un peu ce qui se passait à l'époque des Pershing et des SS-20. Je crois qu'on restera dans le flou. On ne peut pas faire autrement que de rester dans le flou. parce que la dissuasion nucléaire. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir la position russe qui évolue, là, parce que le président Poutine, avec ses gros sabots, devant son ministre de la Défense et son chef d'état-major, leur dit « on va passer en alerte, machin ». J'ai vu la tête des deux, là, ils étaient un peu scotchés quand même. Et j'ai vu M. Lavrov. Alors, il se trouve que j'ai pratiqué M. Lavrov à New York, où il était ambassadeur de Russie. C'est un homme extrêmement dur, extrêmement… C'est un peu du même acabit que Poutine. Je veux dire, c'est un gars qui passait ses vacances, m'expliquait-il, en Sibérie, à casser du bois et à se baigner dans les rivières froides. Vous voyez ? Donc, lui est revenu en arrière. Il y a 3 jours, il a dit, mais nous, on n'a jamais parlé de nucléaire. C'est M. Le Drian qui en a parlé. Et là, aujourd'hui, j'ai encore vu une déclaration du porte-parole du Kremlin disant, mais c'est l'OTAN qui a parlé du nucléaire. Nous, on n'a pas parlé de nucléaire. Alors, évidemment, tout ça, c'est pour la propagande interne. Mais c'est intéressant. Ça veut dire que, ils disent, d'ailleurs, il va dans le détail. Il dit, mais attendez, s'il y a le nucléaire, on rase la civilisation de l'espace de la Terre. Donc, on n'en parle pas. Donc, c'est pour ça que, pour répondre, sans répondre, à la question, on va rester flou. Il n'y a pas d'autre pays européen qui veut se doter de la puissance nucléaire. Il n'est pas question que la France ne se dote plus de l'arme nucléaire. Et où sont les intérêts vitaux de la France? Eh bien, celui qui veut m'attaquer, qu'il la devine. Je ne lui dirai pas. Donc, c'est comme ça que ça marche, la dissuasion. Mais, en revanche, ça a un impact énorme sur notre budget. Hein. Ah ouais, d'où, vous souvenez des discussions du 3%, dont plus personne ne parle aujourd'hui, d'ailleurs, au passage, mais des 3% dans lesquels on disait on devait intégrer ça parce que c'est pour la défense. Donc, je pense que c'est des négociations qui se font pas à table ouverte, mais en disant, écoutez, nous, on paye pour le truc nucléaire, vous, vous allez payer pour tel truc et tel truc. Hein, parce que, mais ça ne peut pas se dire publiquement, je pense.
Et est-ce qu'il n'y a pas la crainte?
Merci. Moi, je voudrais quand même revenir un petit peu à l'arithmétique. Ouais. Quand on étudie un peu le monde…
Je suis allittéraire, hein, je te le dis tout de suite.
Oui, mais c'est des maths de base, hein, c'est des additions et des soustractions.
Je vais essayer.
Ça devrait aller. Quand on regarde les menaces qui peuvent surgir dans le monde, donc on vient de constater que la Russie a attaqué l'Ukraine avec une armée, une armée d'à peu près 200 000 hommes, et ça, c'est qu'une partie de ce qu'elle peut mettre en ligne. Les Chinois, ce n'est pas forcément très, très bien équipé, mais c'est des millions, je crois que c'est au moins 2 millions hein, d'hommes qui peuvent mettre… L'Inde, c'est énorme, l'Indonésie, c'est énorme. Quand on regarde le potentiel que pourrait être une menace africaine qui ne serait pas forcément armée, mais qui pourrait être très, très nombreuse, c'est énorme. Et nous, on s'en rend bien compte qu'en Europe, avec nos armées sophistiquées, technologiques, on va être en petit nombre, parce que de toute façon, on ne pourra pas financer un grand nombre très bien équipé. Et ce déséquilibre du nombre va jouer. Donc, on est en train de parler de résilience, c'est-à-dire qu'on va être obligé de tricher. On va peindre en kaki des civils et on va faire un petit peu leur donner l'arme du pauvre. On va aller chercher le million de fusils de chasse en leur disant, mais écoutez, ça marche aussi le fusil de chasse. Donc, est-ce que c'est vraiment une vraie réponse? La résilience, est-ce que ce n'est pas un fauné à une espèce d'abandon de souveraineté européenne?
Non, alors moi, je pense que la résilience, c'est dans le domaine tactique. Hein. Je prenais l'exemple de ce que fait l'Ukraine et je me disais, tiens, c'est peut-être des exemples qu'on devrait méditer et voir ce qu'on peut faire. Quand on aligne les chiffres, le problème, c'est que quand l'armée française, de toute façon, n'a jamais rêvé de lutter contre l'armée russe toute seule. Jamais. Depuis 1945, nous sommes dans une alliance. Voilà. Et aujourd'hui, quand on parle de chiffres, il ne faut pas regarder les chiffres de l'armée française, il faut regarder les chiffres des armées européennes. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, elles s'additionnent sans se coordonner et se compléter. On multiplie un certain nombre de choses, redondantes, pas utiles, etc., etc., qui font que n'y a pas une économie des moyens, oui, du tout. Voilà, c'est de la juxtaposition. C'est pour ça que je dis que la perspective de la défense européenne, c'est déjà de coordonner les hommes, bien sûr, les budgets, les équipements, pour arriver à ne pas avoir X éléments qui sont côte à côte, qui ne savent pas travailler ensemble et qui ne fournissent pas un effet commun. Donc, c'est ça. Alors, pour revenir à la souveraineté, etc., je le répète, pour faire face à une menace telle que ça, la France, depuis bien longtemps, a totalement décidé de travailler dans le cadre de l'OTAN, qu'on ait été intégré ou pas, hein. Parce que moi, ils me font rire quand on parle de l'intégration. Je rappelle de mes souvenirs de 87, 88, 89, là, enfin 87, 88. Hein, le deuxième corps d'armée était la réserve opérative du groupe d'armée centre. Hein, et on n'était pas dans le commandement intégré. Donc, bon, ça, c'est les gens qui ne connaissent pas trop qui racontent ça. Et quand on leur demande quelle différence vous faites, ils ne savent pas, en fait. Hein. J'ai fait l'expérience avec une candidate. Donc, sur un plateau télévisé où elle était un peu embêtée. Quoi. Voilà. Donc, voilà ce que je veux dire. Et l'aspect que je cite, milice, défense dans la profondeur, etc., je dis simplement que c'est un élément de réflexion qu'on devrait avoir. Je ne dis pas que c'est la panacée et qu'on va le faire. Et je citais dans la masse ce que disait le SEMA, il faudra bien qu'on pense un peu à la masse. Par exemple, l'artillerie. On sait bien qu'aujourd'hui, elle est échantillonnaire chez nous. Je crois que c'était un CEMAT qui disait il y a plus de canons aux Invalides que dans l'armée de terre française. Il a raison. Hein, donc, voilà. Il y a probablement des domaines dans lesquels il faut augmenter pour avoir... Parce que, en fait, qu'est-ce qu'on fait? La fameuse manœuvre de 30 000 hommes là, qu'on va faire en 2023. C'est pourquoi? C'est parce que la France doit être nation pilote, doit fournir, je ne dis pas de bêtises, une division et une brigade dans une autre division. Voilà, c'est ça notre contrat aujourd'hui. Ben, je reprends les chiffres d'avant 90. Nous fournissions un corps d'armée au groupe d'armée centre. On avait créé la première armée avec le troisième corps et la FAR. Hein. Mais bon, voilà, on faisait pareil. Donc on se retrouve un peu dans la même situation qu'auparavant, simplement... dans l'interopérabilité des moyens. Je lisais un truc sur l'interopérabilité entre le F-35 et le Rafale, par exemple, qui ne fonctionne pas. Il faut qu'on fasse des progrès, c'est sûr. Pour ne pas multiplier les échantillons qui n'arriveront pas à travailler ensemble.
Et les passerelles.
Oui, les passerelles, bien sûr. Non, mais technologiquement, il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Beaucoup de choses à faire. Pour ne pas se retrouver, comme les Russes, à parler en clair sur un réseau, parce qu'on a tous des systèmes de chiffrement différents. Enfin, on a connu ça dans les années, les détachements de liaison qu'on mettait en place au deuxième corps allemand, au septième corps US, etc. Enfin, c'est une vieille histoire, tout ça. Hein. On se souvient bien de tout ça.
Et l'industrie, en général?
Ah ben, l'industrie, alors là...
Comment suit-elle?
Non, mais l'industrie, alors... Il y en a qui, aujourd'hui, Arcus, par exemple, Nexter, ils sont ravis. Hein. On est en train d'augmenter, ils ouvrent de nouvelles usines, bon, très bien. Dassault est ravi, le Rafale se vend comme des petits pains, ou pas loin, c'est très bien tout ça. L'industrie navale est assez contente, parce qu'elle sort ses frégates, elle sait qu'il y aura un deuxième porte-avions qui succédera à celui actuellement. Donc, mais il y a un certain nombre de choses qu'il faut... Et je crois que ça, c'est assez récent. C'est pour moi, il y a 2 ou 3 ans, pas plus. Hein. Je me souviens, parce que je suis un peu dans l'industrie de défense, hein, même si on ne fabrique que des uniformes, mais on vend beaucoup de choses. Et par exemple, l'imagerie à intensification de lumière ou thermique, etc. Il y avait une société française qui était en vente. Et les Américains allaient l'acheter. Et il y a un an, et le ministère a dit niet. Enfin, il a dit non, plus exactement. Et ça a été racheté par une société française. Je crois que là aussi, ça fait partie de la reconstruction nationale. Alors, ce n'est pas seulement dans l'industrie d'armement, d'ailleurs. C'est très frappant, comme aujourd'hui, mais ça, c'est la crise Covid qui a ramené l'industrie en France. Moi, je le sais, l'industrie textile, où on a toujours eu des entreprises en France, tout le monde applaudissait, et on nous a aidés financièrement à maintenir cet outil en France. Eh bien, pour l'industrie d'armement, pareil. Alors, il y a des pans qui sont partis. L'armement petit calibre, par exemple, il est parti. Bon, alors, ben, on achète des fusils allemands. Est-ce catastrophique? Je ne suis pas sûr. Je veux dire, il y a un moment où la France, c'est beau, sommet à Versailles, là, accueil royal, hein, remarquable. Mais bon, on n'est plus à l'époque du roi Soleil, et il y a un moment où on doit viser nos limites quand même. Hein, et on ne peut pas tout faire dans tout. MBDA, ce n'est pas seulement français.
Hein, problème, donc,
oui, mais bien sûr, ils ont. Ben, alors, avec les Anglais, c'est un choix difficile. Hein,
oui,
mais,
oui.
Non, mais je suis d'accord. Mais bon, il faut que dans l'industrie d'armement, on mette en place des partenariats. C'est le Fonds européen de défense qui doit inciter à le faire. Regrouper trois pays, trois sociétés sur un fonds financé par l'Europe en innovation pour ensuite les amener jusqu'à l'industrialisation.
Pour les difficultés avec l'Allemagne.
Non, mais bien sûr. Bah, attendez. Mais vous savez, mais attendez, les difficultés, je parle en étant dans une boîte privée aujourd'hui, c'est beaucoup le problème des industriels. Je veux être le seul patron à bord. Je veux être le seul à piloter mon truc. Et moi, je n'ai pas envie de partager avec du schmal. C'est, vous savez, là, ce sont de grandes industries nationales, mais parfois, l'intérêt national passe après l'intérêt de la boîte. Moi, je n'ai pas envie de partager avec un tel. Alors, parfois, il y a des sujets R&D. Hein. Évident, je ne veux pas partager, je ne veux pas passer des trucs. Mais il y a aussi des problèmes de gouvernance. Hein. Je vais donner la boîte à un patron allemand. Hein. Bon, pas question. Non, il y a aussi ça. Hein. C'est comme ça qu'on a fait le Rafale et non pas l'avion européen il y a déjà longtemps. Hein. C'est parce qu'il y a une résistance industrielle. Hein. Oui, oui, non, mais. Non, non, mais attendez, les boîtes allemandes, elles sont pareilles, elles veulent être les seules dans à piloter. Hein.
Est-ce que dans la révolution copernicienne dont vous parlez, qui va amener probablement les gens qui sont sur Internet,
d'accord. Oui, est-ce que dans la révolution copernicienne dont vous parlez, qui risque d'ailleurs de nous amener, vous l'avez évoqué, travailler sur le service national universel, à armer le citoyen, etc. Est-ce qu'on réfléchit de manière un peu rénovée au problème des SMP? Est-ce que Wagner nous inspire? Est-ce que voilà, ces outils assez professionnels, utilisables à droite, à gauche, de façon, voilà, on a été très, très fermé sur ce sujet. Est-ce qu'on y réfléchit à nouveau?
Alors, écoutez, j'ai vu un papier, je crois, où moi, il a intervenu là-dessus, de mon camarade Didier Castres, qui a écrit là-dessus. On est très fermé. Et alors, ce qui est très amusant, c'est que sur le papier, les Russes sont très fermés aussi. Vous savez que le mercenariat est interdit en Russie. Bon, moyennant quoi, il y a Wagner, mais ils ignorent Wagner, ils ne savent pas ce que c'est Wagner, ils ne voient pas où c'est Wagner. Nous, on ne peut pas manier le mensonge de la même façon, donc c'est un peu plus difficile pour répondre. Mais ce que j'ai dit aussi à propos de milices, de défendre en profondeur, etc., je ne sais pas du tout si c'est étudié. Hein. J'en parle là parce que mon expérience sur l'Ukraine aujourd'hui me fait dire, tiens, on devrait y réfléchir. J'en sais rien. Mais sur les SMP, je n'en sais rien non plus aussi parce que ça a été très fermé. Et du coup, il y a beaucoup de sociétés anglo-saxonnes qui ont pris ce créneau. Et aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de sociétés françaises. Il y a des sociétés françaises de sécurité, c'est un autre sujet, mais pas des SMP, vous avez raison. Je n'ai pas la réponse, je ne sais pas. Des SMP ? Françaises ? Non, non, on parlait de françaises. Ah non, les Américains, bien sûr, les Blackwater et compagnie, bien sûr. Mais d'ailleurs, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'en Afghanistan, il y avait jusqu'à un tiers des effectifs qui étaient des SMP, en fait. C'était très haut.
On a un embryon avec les économas.
Alors, les économas.
Mais bon, il faut une logistique.
Oui, non, mais les économas, moi, j'ai les ai découverts il n'y a pas longtemps, j'ai retrouvé le directeur des économas que j'avais connu il y a très longtemps, qui vient de prendre et qui a des ambitions de chef d'entreprise. Hein.
Oui.
C'est impressionnant. Hein. Ah ouais, j'ai trouvé ça intéressant.
soit... une question sur l'équilibre interne au ministère des Armées.
L'équilibre interne au sein du ministère des Armées, est-ce qu'on envisage de plus pousser l'interarmée au détriment des armées, sachant que les armées auraient simplement une politique de moyens, mais que tout ce qui serait emploi-entraînement serait remonté à un niveau supérieur, plus en tout cas que ça ne l'est actuellement.
Écoutez, l'interarmée, je crois, a fait d'énormes progrès. De l'époque où j'étais boulevard Saint-Germain et où chaque armée était dans son coin, Ballard y contribue beaucoup. Alors, sous contrôle d'Olivier, Ballard y contribue beaucoup parce que les gens me disaient, on est au même niveau, on discute, on est ensemble, etc. etc. Donc, je pense que l'interarmée a fait beaucoup de progrès. Alors, dans les opérations, c'était déjà le cas. Le COIA puis CPCO, c'était déjà très intégré. Dans la préparation, c'est vrai que les chapelles existent toujours, hein, parce que d'abord, quand il va falloir discuter de la loi de programmation et des budgets, chacun va essayer de tirer la couverture à soi. Donc après, c'est un peu le rôle du SEMA, puis de la ministre ou du ministre, d'arriver à articuler tout ça. Mais il y a de plus en plus d'organismes interarmés, le cyber par exemple, est quelque chose de totalement interarmé. Et puis, je le répète, moi, j'ai le sentiment qu'avec Ballard, on a fait un grand progrès dans ce domaine-là. Et sur l'entraînement, je parlais de la fameuse manœuvre de 2023, là. Alors, je ne sais pas quelle sera la contribution de la marine là-dedans, mais terre-air, très certainement, complètement intégré.
Bon. Mais en même temps, dans ce genre d'arbitrage, l'armée de terre est quand même en général un petit peu cocu, je trouve, par le fait que vous ne découpez pas une frégate, c'est compliqué, alors qu'avoir 20 chars en moins, ça l'est beaucoup moins.
Oui, alors ça, c'est une critique traditionnelle des terriens, de dire qu'ils se font avoir sur les budgets. Il y a des, alors, moi, je me souviens très, très bien, quand le programme Scorpion a été lancé tout à fait au départ, c'était l'argument qui avait été pris pour ne plus se faire avoir. En disant, vous comprenez, les aviateurs, ils ont leur machin intégrateur, les marins intégrateurs, nous, on n'a rien. Donc, on va intégrer tout ça. Et d'où le programme Scorpion, et qui réussit bien. Donc, voilà, ça, c'est le premier point, la première réponse à cette interrogation. Mais c'est vrai que c'est parfois difficile, par exemple, quand on parle du nucléaire. Parce que quand vous parlez de frappe aérienne nucléaire, les aviateurs vous disent, c'est bien, mais pour avoir deux vecteurs qui rentrent, il faut les intercepteurs, les machins, les trucs, etc. Donc, on a un package complet et il n'est pas négociable. Donc, évidemment, ils arrivent en bloc. Quand vous parlez de la force océanique, pareil, ils vous disent, il faut les sous-marins nucléaires d'attaque parce que, etc., etc. Donc, ils font une bulle et ils vous disent, il faut tant de frégates, tant de machins, parce que c'est le nucléaire, et le nucléaire, ça ne se discute pas. C'est clair. Donc, nous, on n'a plus de nucléaire dans les terres depuis que Pluton et Hadès ont disparu. Donc, on n'a pas cet argument-là. Mais je pense qu'avec Scorpion, on est arrivé à présenter un objet aussi global qui intègre tous les systèmes d'armes et qui, donc, est une espèce de bulle dans laquelle vous pouvez dire, ah oui, mais si vous retirez ça, tout se casse la figure. Enfin, vous voyez ? Donc, je crois qu'on a
20 griffons en moins, ça ne pète pas complètement Scorpion non plus.
Oui, voilà. Ouais, mais attendez, je vous rejoins le même truc. Alors, on va fournir X rafales à la Grèce ou à je ne sais pas quoi, parlez-en aux aviateurs. Vous allez voir ce qu'ils vont vous dire. Hein.
Ouais.
Donc, non, je pense. Puis alors, j'allais dire, j'ai vraiment parlé bouton, mais ça fait deux fois de suite qu'on a des SEMA terriens, des vrais terriens, parce que Burkhardt, il était encore SEMA, hein. Il est passé SEMA. Donc là, je vais vous dire, les marins et les aviateurs, ils disent, vous exagérez les gars quand même. Donc, bon.
Sur la réflexion sur la défense européenne, c'est vrai qu'on sent, que ça vibre après, effectivement, que le document, la boussole stratégique. Mais est-ce que vraiment, il y a un espace de réflexion autour de ce
une telle ambition en Europe. Ça n'a pas tellement l'impression, il n'y a pas tellement de structure.
Ah si, alors,
ça, il y a l'AED, l'OCAR, tout ça, ouais. Ça, c'est très technique.
Non, mais alors, je citais, je crois que c'était M. Borrell qui citait, mais on a un Italien qui dirige l'état-major, on a un chef d'état-major français, l'amiral Legendre, et il y a 200 personnes dans l'état-major. Il y a 5 ou 6 ans, on devait être à moitié moins d'effectifs. Hein. On a été très aidé par le Brexit là-dedans. Parce que le jour où il y a eu le Brexit, d'un seul coup, on ne contestait plus qu'il puisse y avoir un état-major militaire à l'Union européenne. Alors qu'avant, on disait, c'est pas la peine, ça existe à l'OTAN, c'est pas la peine d'en avoir à l'Union européenne. Donc, je crois qu'on a fait beaucoup de progrès là-dessus. Ensuite, l'espace. Moi, ce que je crains plus, c'est que les crises sont un accélérateur des processus. On le voit aujourd'hui. Je le décrivais avec les décisions prises en 48 heures. Un accélérateur. Il ne faut pas que le soufflet retombe. Dans un mois, dans deux mois, est-ce que les gens vont pas se dire, il faut maintenir la pression? Parce que je crois que l'espace, aujourd'hui, il existe. Et je dis, il existe d'autant plus que pour moi, il n'y a plus de compétition entre l'OTAN et l'Union européenne. Il y a une défense européenne qui peut agir à l'intérieur de l'OTAN, mais qui prend aussi des décisions sur d'autres sujets complets. Et surtout, gros avantage par rapport à l'OTAN, c'est que l'OTAN, c'est un outil militaire. L'Union européenne, elle peut faire d'autres choses. La livraison des armes, ce n'est pas l'OTAN qui va le faire, c'est l'Union européenne. La livraison des armes à l'Ukraine, c'est l'Union européenne. Les moyens pour régler des tas de problèmes économiques, etc., ce n'est pas l'OTAN qui le fait, c'est l'Union européenne. Donc, depuis le début, on le sait, mais là, on l'a à l'exercice. L'Union européenne, c'est une vision globale. Et je répète, la défense, c'est un sujet global. Ça ne peut pas être qu'un sujet militaire. Et l'OTAN, ça ne traite que d'un sujet militaire. Alors, soit ils sont endormis derrière l'écran, soit...
Ce ne sont pas déconnectés.
Ah, mais donc ça les intéresse.
Une brillante conclusion.
Allez, vas-y.
Tout d'abord, un grand merci. Un grand merci. Et je ce que j'ai apprécié, moi, c'est d'être surpris. Moi, j'aime bien être surpris. C'est vrai que on se demandait si on allait compter les troupes, compter les chars, compter. Et comme je savais que ça n'était pas compté, donc non. Moi, j'ai beaucoup apprécié cette approche par le haut de faire la synthèse dans un contexte plus large. Alors, c'est vrai qu'on sent que la mise en œuvre a une certaine complexité, mais que la France, en tant que. Avec cette élection présidentielle et puis cette présidence de l'Union européenne, il y a peut-être un petit espace pour faire passer des idées. Après, ça prendra le temps que ça prendra. Mais c'est vrai que je pense que c'est un peu le moment de dire comment on fait pour résoudre ce problème de l'Union européenne qui sait se défendre. Alors, pas toute seule, je suis d'accord, mais qui sait vraiment se défendre et qui soit un bras armé, qui ne sait pas faire, qui ne s'appuie pas que sur les Américains. Pour avoir beaucoup pratiqué le franco-allemand à travers les hélicoptères, là aussi, je demande à voir. C'est intéressant. Mais il y a besoin qu'il y ait un nouvel élan qui se passe dans les pays. Je pense que l'influence des pays de l'Est collés aux Russes va être importante dans cette réflexion, parce que c'est vrai qu'ils ont vraiment envie qu'on ait une vraie défense. Les Polonais sont appuyés sur les Américains, d'autres aussi, mais on voit bien que c'est l'Europe qui les sortira de là. Et moi, je trouve que nous avoir amené à cette réflexion-là, on lui donne un peu de corps, qui trouvait ça appréciable, un grand merci. Et les dérives sur la partie ukrainienne, en fait, sont une bonne aide, en fait, pour argumenter autour de ce qui se passe maintenant. Il y a une espèce de convergence actuelle où l'exposé
quand on avait choisi cet exposé, que j'ai dit au début, on s'est dit c'est assez opportun, et on s'est, dans l'échange de mails, on s'est dit c'est pas opportun, c'est de plus en plus opportun. Donc un grand merci de nous avoir amené à cette réflexion, qu'on va d'ailleurs essayer de poursuivre, nous, au niveau des colloques, parce qu'on sent quand même que c'est un sujet qui risque de vibrionner au-delà simplement d'élections. Et puis, on espère un peu que cette opération, cette guerre russe se ralentira, mais elle va sans doute nous aider à pousser cette réflexion qu'on a, à lui donner du corps. La question sur les drones est très intéressante, parce qu'on, je veux dire un peu crûment, et c'est sans complexe, on a l'impression d'un bricolage, mais d'un bricolage qui marche. Donc, il y a aussi cette part, moi j'ai apprécié l'intervention sur l'AID, la DGA, l'AID, c'est tant que l'AID fait partie, donc l'Agence d'innovation et défense fait partie de la DGA, donc c'est intéressant que tu dises, tiens, ça permet de contourner. Donc aujourd'hui, on voit qu'il y a une élasticité, une réflexion autour de tous les sujets qui est assez intéressante. Un grand merci en tout cas, Dominique. Et voilà, si je sais qu'on t'a déjà sollicité, on verra si on arrive à te faire revenir. En tout cas, on a bien apprécié. Un grand merci.
Merci beaucoup d'abord de m'avoir invité. Et alors, juste une remarque, j'espère que je n'ai pas été trop généraliste. Mais j'ai la coutume de dire, quand je suis sur les plateaux, je dis je suis général, donc je suis généraliste. Je ne suis pas un spécialiste. Voilà.
Très bien. Merci.